VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire ce 3 août 2015.
Condamnant l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana à Bujumbura, les États-Unis appellent toutes les parties à renoncer à la violence. La réaction d'un Burundais suite à l'attaque meurtrière.
Je pense que le plus important, c'est que les forces de sécurité, et surtout si l'armée reste neutre dans cette situation, je pense qu'on peut éviter la dérive.
Le professeur Fabien Sichaayo joint à Montréal.
L'armée nigériane dit avoir sauvé 178 personnes retenues captives par Boko Haram.
Une lueur d'espoir dans la lutte contre Ebola, un vaccin testé en Guinée s'est révélé concluant.
RDC, un projet de loi bloqué au Parlement.
Le problème, c'est qu'il y a trop de disparités par rapport aux répartitions de sièges. Il y a d'autres sièges qu'on est en train d'attribuer à certains groupements, certains chefferies, qui n'ont même pas lieu d'existence puisque ça n'existe pas.
Le député Jean-Claude Vouemba.
Le secrétaire d'État américain John Kerry rencontre aujourd'hui le président égyptien au Caire.
États-Unis, le président Obama dévoile aujourd'hui son plan Clean Power de lutte contre la pollution.
Et avant la Minute Éco et les sports, le journal.
Au Burundi, assassinat d'un haut conseiller à la sécurité du président Pierre Nkurunziza, le général Adolphe Nshimirimana a été tué dimanche par des tirs de roquettes à Bujumbura, a indiqué le porte-parole présidentiel Willy Niyamitwe. Voici la réaction du professeur Fabien Sichaayo de l'Université de Montréal.
Pour le moment, personne ne peut dire exactement qui est responsable du meurtre. Moi, j'appelle ça un acte terroriste parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Mais je ne sais pas exactement l'impact que ça va avoir sur l'évolution de la situation. Mais quelle que soit la personne qui a commis cet acte terroriste, je pense que le message est clair et il est adressé à tous les gens qui sont au pouvoir. Ça veut dire que tout le monde est vulnérable. Tout le monde peut faire l'objet d'un acte terroriste de ce type. Est-ce que ça veut dire que nous avançons vers une guerre civile ? Je ne peux pas le dire pour le moment. Je pense que le plus important, c'est que les forces de sécurité, et surtout si l'armée reste neutre dans cette situation, je pense qu'on peut éviter la dérive.
Le professeur Fabien Sichaayo était joint à Montréal.
Dans un communiqué, les États-Unis condamnent l'assassinat du général Nshimirimana et appellent les Burundais au calme et à la retenue. Nous appelons toutes les parties à renoncer à la violence et à redoubler d'efforts pour engager un dialogue politique transparent, inclusif et global, a déclaré le porte-parole adjoint du département d'État, et d'ajouter que le Burundi devait aborder les questions essentielles, y compris le respect des droits de l'homme, la liberté de la presse et les autres libertés fondamentales, ainsi que le respect de l'accord d'Arusha et de ses dispositions relatives au partage du pouvoir. Mark Toner souligne que la restauration du dialogue est urgente et que toutes les parties doivent travailler ensemble à la recherche d'un consensus par la voie pacifique pour le peuple burundais.
Impasse à l'Assemblée nationale de la RDC à Kinshasa, où les parlementaires ont clôturé hier une session extraordinaire sans que les deux chambres ne s'accordent sur un projet de loi électorale. Adopté le 25 juillet par les députés, ce projet de loi portant répartition des sièges par circonscription pour les élections municipales et locales a été rejeté vendredi par le Sénat, qu'il a jugé inconstitutionnel. Le député Jean-Claude Vouemba, président du Mouvement du Peuple Congolais pour la République.
Le problème, c'est qu'il y a trop de disparités par rapport aux répartitions de sièges. Il y a d'autres sièges qu'on est en train d'attribuer à certains groupements, à certains chefferies, qui n'ont même pas lieu d'existence puisque ça n'existe pas. Il y a d'autres chefferies qui ont moins d'habitants dans leur village, qui se retrouvent avec plusieurs sièges par rapport aux autres qui sont majoritaires. Donc c'est pour cela que je crois que le Sénat a fait un travail extraordinaire, ne voulant pas être ridicule comme l'Assemblée nationale, a tout simplement rejeté cette loi en disant que ça puisse revenir au mois de septembre, quoique le speaker de l'Assemblée nationale, le président Obé Minagwa, voulu ridiculiser le Sénat, comme quoi qu'ils l'ont fait, c'est là pour qu'il puisse rester encore un siècle. Moi, je crois que je préfère mieux qu'il reste un siècle, mais qu'il travaille honnêtement et qu'il puisse rendre le bon service au peuple congolais que d'être des caporaux en chef quelque part.
C'était Jean-Claude Vouemba, président du Mouvement du Peuple Congolais pour la République.
Le secrétaire général de l'ONU a condamné l'assassinat d'un soldat de maintien de la paix de la MINUSCA à Bangui. Les casques bleus ont été attaqués dimanche matin par un groupe armé au cours d'une opération de recherche d'un criminel présumé sous mandat du procureur de Bangui. Un casque bleu a été tué et 8 autres ont été blessés. La MINUSCA a arrêté 3 suspects lors de l'opération. Appelant à une action rapide pour traduire les auteurs en justice, Ban Ki-moon appelle en outre tous les groupes armés à respecter l'impartialité de la mission onusienne. Dans son communiqué d'hier, le secrétaire général réitère l'engagement des Nations Unies à soutenir les autorités centrafricaines dans la lutte contre la criminalité visant à mettre un terme à l'impunité.
Les forces armées nigérianes ont sauvé 178 personnes détenues par Boko Haram dans le nord-est du pays. Parmi les personnes libérées, 101 étaient des enfants et 67 des femmes, a déclaré dimanche soir un porte-parole militaire. L'armée de l'air a affirmé avoir tué un grand nombre de militants, tout en aidant les troupes au sol à repousser une attaque sur le village de Bita, dans l'état de Borno. Ces déclarations ne précisent pas quand les attaques se sont produites.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les défenseurs des droits civiques ont lancé une longue marche pour dénoncer, disent-ils, une nouvelle vague d'attaques contre l'égalité des droits. Les précisions de Timothée Donangmaï.
La marche est une initiative de l'Organisation nationale pour l'avancement des gens de couleur qui entend ainsi marquer le 50e anniversaire du Voting Rights Act, la loi sur le droit de vote pour les militants des droits civiques. Un arrêt de la Cour suprême des États-Unis datant de 2013 a permis à certains États de supprimer des dispositions clés de cette loi. Les marcheurs partis de Selma couvriront 1385 km en 40 jours et 40 nuits et atteindront Washington, la capitale fédérale, le 15 septembre. Ils ont franchi en chantant l'historique pont Edmund Pettus de Selma où des policiers avaient battu en mars 1965 des manifestants noirs protestant contre la mort d'un noir aux mains d'un policier. Cet événement et la marche subséquente menée par le pasteur Martin Luther King de Selma à Montgomery avaient donné l'élan nécessaire au Congrès pour l'adoption de la loi sur le droit de vote. Une mesure qui a supprimé toutes les barrières empêchant jusque-là les Africains-Américains de s'inscrire sur les listes électorales.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a souligné l'importance des relations entre l'Égypte et les États-Unis, ainsi que la place primordiale de l'Égypte au Moyen-Orient, lors d'une rencontre dimanche au Caire avec le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry. Dans son allocution d'ouverture lors des pourparlers au Caire, M. Kerry a déclaré que les deux parties discuteront de la menace posée par le groupe État islamique et que l'Égypte a déjà payé un prix élevé dans la lutte contre l'extrémisme. Il a souligné la nécessité d'une stratégie de lutte contre le terrorisme avec le soutien de personnalités religieuses, d'éducateurs et de citoyens qui discréditent les doctrines haineuses. M. Kerry sera reçu aujourd'hui par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.
Barack Obama dévoile Clean Power ce lundi. Le président américain annoncera de nouvelles réglementations visant à réduire la pollution de carbone provenant des centrales électriques. Le plan Clean Power de M. Obama serait de réduire la dépendance de l'électricité au charbon et d'aller vers les énergies renouvelables. L'objectif est de réduire les émissions de carbone des usines de 32% en dessous des niveaux de 2005 d'ici 2030. Les États auraient la responsabilité d'y parvenir avec leur propre programme, mais sous le nouveau plan, ils obtiendraient 2 ans de plus pour atteindre l'objectif. Selon la Maison-Blanche, la nouvelle version, si elle est appliquée, augmentera la quantité d'énergie renouvelable de 28% aux États-Unis.
Et des centaines de journalistes ont défilé dimanche dans la capitale du Mexique pour protester contre l'assassinat d'un photojournaliste retrouvé mort par balle avec 4 femmes. Appelant à la justice et à la fin de l'impunité, ils portaient des pancartes avec la photo de Ruben Espinosa.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par Idrissa Seydoudia.
16 opérateurs sont autorisés à procéder à l'émission de la monnaie électronique au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, selon un état que vient de publier la Banque des États de cette sous-région, où est constaté un boom de l'activité d'envoi d'argent par voie de téléphone mobile, où les opérateurs évoluent dans une certaine anarchie. Selon l'agence APA, il y a 5 émetteurs et 4 opérateurs techniques au Cameroun et au Gabon, 3 émetteurs et autant d'opérateurs au Congo et au Tchad, avec comme type de produit le mobile money et la carte prépayée. L'Organisation mondiale du commerce a une nouvelle fois manqué vendredi une échéance qu'elle s'était fixée pour se mettre d'accord sur un programme de travail concernant les dossiers en suspens du cycle des négociations commerciales de Doha lancé en 2001. Selon l'AFP, des divergences importantes persistent sur l'agriculture et l'accès au marché des produits industriels. Deux dossiers qui opposent pays industrialisés et en développement depuis des années. La compagnie aérienne tunisienne privée Sifax Airlines a annoncé la semaine dernière la cessation provisoire de ses activités et l'annulation de tous ses vols vers et depuis la Tunisie, une interruption liée à des problèmes financiers selon son avocate. À noter que les attentats au musée du Bardo en mars et à Port El Kantaoui fin juin, qui ont fait au total 60 morts dont 59 touristes, ont durement affecté le tourisme, un secteur crucial de l'économie.
Merci beaucoup Idrissa Seydoudia pour la Minute Éco. À présent les sports, présentés par Élisée Onkpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Nathalie.
On commence par les éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. On connaît les qualifiés pour la phase finale qui aura lieu au Sénégal.
Le tenant du titre, le Gabon, a été éliminé par le Mali. Battu 1-0 à l'aller, les Panteros ont une fois encore subi la foudre du Mali, vainqueur à Bamako 2-0. Idem pour le Congo Brazza. Les hommes de Claude Leroy n'ont pas su renverser le Nigeria, déjà victorieux à l'aller 2-1. L'Algérie sera aussi présent à Dakar, après avoir obtenu le nul blanc 0-0 au Sierra Leone. Les jeunes Fenech ont déjà fait le nécessaire à l'aller 2-0. Et puis la Tunisie, battue à l'aller 1-0 par le Maroc, a comblé son retard en s'imposant sur la marque de 2-0.
Ça passe aussi pour l'Afrique du Sud, la Zambie et l'Égypte.
L'Égypte a confirmé sa victoire du match aller en s'imposant une nouvelle fois 2-1 en Ouganda. Bien placé après son nul 1-1 au Zimbabwe, l'Afrique du Sud a elle aussi confirmé à domicile en déroulant 3-0. Par contre, la Côte d'Ivoire a été sortie au tir au but, tenue en échec par la Zambie à Abidjan au match aller 0-0. Les éléphantaux ont été accroché une nouvelle fois à Lusaka au match retour, 0-0. La qualification s'est donc jouée au tir au but, 4-3 pour la Zambie. La Zambie rejoint ainsi le Sénégal, pays hôte, mais aussi l'Algérie, l'Égypte, le Mali, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Tunisie. A noter que la phase finale de cette compétition qualificative pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 aura lieu au Sénégal du 28 novembre au 12 décembre 2015.
Chez les dames, il était question des barrages des JO de Rio 2016 avec 3 matchs au programme.
L'Afrique du Sud s'est facilement qualifiée en battant à l'aller comme au retour le Kenya 1-0. Qualification également pour le Cameroun en mauvaise posture après avoir concédé le nul à domicile face au Ghana 1-1 à l'aller. Les Lions ont résisté au match retour 2-0. Ça passe également pour la Guinée équatoriale. Bien placée après avoir ramené le nul du Nigeria 1-1, la Guinée équatoriale s'est qualifiée en s'imposant 2-1 à Bata. Ainsi, pour le dernier tour qualificatif, on aura des confrontations suivantes. Afrique du Sud, Guinée équatoriale et Cameroun, Côte d'Ivoire. Les Ivoiriennes d'ailleurs qualifiées sur tapis vert.
Direction la Côte d'Ivoire et le Stella remporte la Coupe de la Ligue.
Le club d'Adjamé s'est adjugé ce trophée en battant en finale le Sewi Sport de San Pedro au tir au but 4-3. 1-0 après le temps réglementaire. supplémentaires. Lanterne rouge de cette Ligue 1 ivoirienne, le Stella Club d'Adjamé peut se consoler avec cette victoire en attendant de se maintenir en 2-1. Et puis sur le vieux continent, le Paris Saint-Germain a remporté le trophée des champions en France aux dépens de Lyon 2-0. En Allemagne, c'est Wolfsburg qui s'offre la Supercoupe en venant à bout du Bayern de Munich au tir au but 5-4, 1-1 après le temps réglementaire. En Angleterre, la Supercoupe a été remportée par Arsenal qui a battu Chelsea 1-0. C'est la première victoire de carrière d'Arsène Wenger face à José Mourinho.
Merci beaucoup Élisée Onkpatine pour la page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Une lueur d'espoir dans la lutte contre Ebola. Un vaccin d'un laboratoire canadien testé en Guinée vient de se révéler concluant. Les premiers résultats ont été publiés ce week-end par l'Organisation mondiale de la santé. Voici un reportage de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
C'est un résultat prometteur, s'est réjoui Rémi Lama, ministre guinéen de la Santé, après l'annonce des premiers résultats. Comme lui, l'autre cobaye, le coordinateur national de lutte contre Ebola, le docteur Sakoba Keïta, satisfait, a annoncé que les tests vont se poursuivre.
La Guinée va continuer premièrement l'essai vaccinal pour que les contacts des nouveaux cas positifs dans notre pays puissent bénéficier de ce vaccin de façon immédiate et exhaustive.
Le 7 mars dernier, le ministre guinéen de la Santé et le coordinateur national de lutte contre l'Ebola étaient parmi les volontaires pour l'essai vaccinal de VSV Ebov, un antidote proposé par un laboratoire canadien. Les résultats annoncés et jugés efficaces par l'Organisation mondiale de la santé concernent 4000 Guinéens repartis en deux groupes. Le premier vacciné immédiatement n'a signalé aucun cas d'Ebola. L'autre groupe, dont 16 personnes ont développé la maladie, n'a reçu le vaccin qu'après 21 jours. Même si les résultats sont encourageants, il faut attendre encore quelques temps, précise Mohamed Bellocine, représentant de l'OMS en Guinée.
Ce n'est encore qu'un essai. Le produit n'a pas encore eu toutes les autorisations et toutes les qualifications pour être mis sur le marché.
C'est une avancée contre Ebola et en acceptant l'essai, les Guinéens offre une solution à la maladie, a apprécié le docteur Mombouli, ancien coordinateur de lutte contre Ebola au Congo-Brazzaville.
En début d'épidémie, on disait pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin. Hollywood avait ajouté son grain de sel, ça a fait que c'était une maladie extrêmement effrayante. Je crois qu'il faut effectivement se joindre à l'OMS et féliciter le peuple guinéen d'avoir eu le courage d'essayer ce vaccin, parce que c'est un concept entièrement nouveau. Il n'a jamais été testé nulle part ailleurs au monde, et surtout pas en pleine épidémie. Donc vous n'avez pas baissé les bras, vous n'êtes pas laissé faire et vous avez offert au monde une solution enfin à Ebola.
La Coordination nationale de lutte contre Ebola annonce un stock disponible de 2000 vaccins et 4000 attendus. Même si le vaccin contre Ebola testé en Guinée est 100% efficace, il faut attendre des données plus concluantes pour savoir si le vaccin peut être recommandé à un grand nombre de personnes et à l'échelle nationale. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
En RDC, le fichier électoral de la CENI a été audité par une mission de l'Organisation internationale de la francophonie. Les conclusions de cette analyse révèlent des anomalies que la commission électorale est appelée à corriger avant le prochain scrutin. Voici un reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Du 17 au 31 juillet dernier, une mission de l'Organisation internationale de la francophonie a audité le fichier électoral de la RDC. Associés à cette opération, les membres de la Commission électorale nationale indépendante, des représentants de l'opposition, de la majorité de la société civile. Les conclusions de la première partie de cette évaluation ont été révélées le week-end à Kinshasa. L'OIF note quelques anomalies à corriger avant les premières élections à venir en RDC. Le général Malien Siaka Sangaré est le chef de la délégation des experts de l'Organisation internationale de la francophonie.
Nous avons effectué cette analyse au regard des normes internationales, au regard des critères de fiabilité Nous avons relevé quelques anomalies pour lesquelles nous avons fait des recommandations à l'endroit des autorités congolaises, mais également à l'endroit de la CENI. Nous avons relevé au titre des anomalies quelques doublons, mais de niveau très faible, il faut le reconnaître, quelques électeurs sans photo, quelques électeurs sans empreinte digitale. Pour ce qui concerne les personnes décédées, justement, il est important aujourd'hui qu'on puisse les radier du fichier électoral. Il y a un problème fondamental qui est là, c'est l'absence du système d'état civil en RDC.
Délégué de l'opposition à ces travaux, le député UDPS Sami Badibanga se satisfait de la prise en compte des préoccupations de sa famille politique.
Nous avions particulièrement des préoccupations qui ont été prises en compte, notamment l'analyse biométrique des différentes bases de données, la question des nouveaux majeurs, la question des personnes qui sont décédées et notamment les changements d'adresse qui forcément nous amèneront vers une mise à jour et donc vers une révision de ce fichier électoral.
L'opposition qui n'a cessé de souligner ces dernières semaines que l'actuel fichier électoral est corrompu et nécessite une mise à jour rappelle par ailleurs comme impératif la mise en application de ces recommandations. À la majorité présidentielle, on insiste par contre sur la nécessité du dialogue entre opposition et majorité au sujet notamment de l'enregistrement de nouveaux électeurs. François Nzekouyé, député PPRD, est le délégué du pouvoir à cette mission d'audit.
La question majeure de ces fichiers électoraux, c'est l'enregistrement de nouveaux majeurs. Et cette question mérite absolument que la classe politique se réunisse parce que l'enregistrement de nouveaux majeurs entraîne un coût et entraîne du temps. Il faut qu'on puisse se mettre d'accord, qu'on tire les conséquences éventuelles sur la prolongation des délais de convocation des électeurs aux différents scrutins.
Le travail va se poursuivre au mois de septembre prochain. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La plateforme des femmes leaders du Mali et le collectif des jeunes pour l'équité Nord-Sud montent au créneau. Les femmes exigent leur implication dans les instances de décision qui seront mises en place pour l'application de l'accord de paix, tandis que les jeunes demandent plus d'équité dans les futurs recrutements à la fonction publique par le gouvernement malien, qui, selon le collectif des jeunes, veut faire la part belle aux ressortissants des régions nord du Mali. Voici un reportage de Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Créée il y a un an, la plateforme des femmes leaders du Mali ne veut pas rester en marge de l'application et le suivi de l'accord pour la paix. Les responsables de la plateforme des femmes disent avoir joué leur partition. Oumoussal Sek, membre de la plateforme des femmes leaders du Mali.
Elles ont fait surtout un travail de coulisses entre les différents groupes armés et aussi le gouvernement, donc sensibiliser à ce que vraiment ils adhèrent aujourd'hui au processus de l'accord de paix. Et étant ici, celles qui ne sont pas parties ont beaucoup suivi le processus. Elles ont organisé des séances d'explication de l'accord. Elles ont aussi apporté des messages au gouvernement.
La paix au Mali est impossible sans l'implication réelle des femmes à tous les niveaux. C'est ce que pensent les responsables de la plateforme des femmes leaders, dont la présidente est Doumbia Mama Koïta.
Nous avons demandé la représentation des femmes dans toutes les instances de prise de décision. Pour ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord de paix, que ce soit la Commission nationale dialogue, justice et réconciliation, que ce soit le comité de suivi, que ce soit tous les autres secteurs qui ont été mis en place. Nous voulons que ce soit non seulement au niveau national, mais au niveau des régions, des cercles et des villages. Et nous avons demandé la mise en place des centres d'écoute pour qu'il y ait des écoutes et des réparations et des appuis.
Si les femmes ont mis leurs préoccupations dans un document qui a été remis au président de la République, tel n'est pas le cas pour les membres du collectif des jeunes pour l'équité Nord-Sud. Mamadou Sidibé, président du collectif pour l'équité Nord-Sud.
Nous nous sommes rendus compte après la signature des documents de l'accord de paix et de réconciliation qui très rarement ont fait mention bien évidemment aux régions sud et au-delà des régions sud, notamment les jeunes des régions sud ne sont aucunement mentionnés dans le processus d'insertion, de réinsertion ou d'intégration ou de réintégration. Et nous trouvons que cela n'est pas très très juste.
Mamadou Sidibé et ses camarades ne veulent pas de bras de fer avec les autorités maliennes, mais ils souhaitent la réparation d'une injustice à leurs yeux.
C'est pour attirer l'attention bien sûr des dirigeants et des partenaires sur ce que nous appelons peut-être une injustice qui est là. Voilà. Il est très très difficile d'arriver à une paix durable et globale en causant du tort bien évidemment à d'autres. Que l'État et les partenaires revoient leurs copies. Nous allons faire un collecte de CV. Après Bamako, nous allons nous rendre dans toutes les régions sud pour faire la même chose. Nous allons saisir les autorités.
Tout cela se passe alors que le comité de suivi de l'accord tarde à voir le jour. Des divergences nées dans sa mise en place ont occasionné la suspension de ses travaux. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République du Congo, des téléphones portables Elikia sont fabriqués sur place dans la capitale Brazzaville depuis environ 3 semaines. Une usine d'assemblage a été installée avec l'appui de techniciens chinois qui accompagnent aujourd'hui des jeunes Congolais à s'approprier leur usine. La Voix de l'Amérique a visité cette unité industrielle. Voici le reportage de notre correspondant Nguela Ngoussou.
Immeuble Zara, dans le quartier industriel de Mpila à Brazzaville, c'est l'endroit que Véron Mankou a choisi pour installer son usine d'assemblage de téléphones portables. Ici, 80 personnes, toutes des jeunes Congolais, travaillent comme des fourmis.
On travaille plus ou moins 200 téléphones par jour.
Il souffle, il enlève les tâches, j'enlève le brin là et je pose les crans pour que ça soit propre. C'est mon travail. Ici, c'est presque le produit fini. Après, chez moi, ça va là-bas, chez l'enregistreur. Il enregistre pour mettre les mails. Il reste maintenant à poser l'écran. Si l'écran est propre, là, tu peux poser. Mais s'il y a des empreintes, des saletés, tu enlèves avec le souffleur.
Les cartons arrivent, les trucs sont désordonnés. Il y a des divers éléments à l'intérieur. On a les ordonnées. Ensuite, je les passe à mon collègue qui place le chargeur, les écouteurs, jusqu'à arriver au téléphone. Et au contrôle qualité, ils vont voir comment ça se passe, si le travail était bien fait.
Rien n'est laissé au hasard. Aucun téléphone ne sort de l'usine avec défaut.
Je suis en train de contrôler et faire le test final avant que ça n'aille à l'emballage. Par exemple, nos écouteurs marchent bien, la radio, l'écoute, tout ça. La sonnerie, le vibreur, la torche et tout ce qui est accessoire.
Nous sommes là pour tester la fréquence de tout ce qui est comme circulation du courant au niveau du téléphone, qualité de réception, de l'appel. Parce que lorsque nous le mettons dans ce coffre, on émet un appel. On vérifie la qualité de réception. Une fois sur le marché, est-ce qu'entre l'émetteur et le récepteur, il y aura une bonne connexion? Donc c'est ça notre rôle en fait.
Après 3 mois de formation en Chine, une dizaine des jeunes, devenus depuis lors des chefs d'équipe au sein de l'usine, transmettent à leurs collègues la technologie essentielle. Le tout sous la bonne garde des techniciens chinois qui accompagnent la mise en œuvre de l'usine. Pour Quentin Loubou, le responsable de la communication de l'usine, cette unité industrielle qui a une capacité de montage de 350 000 téléphones le mois peut faire plus que ça.
Donc une capacité qui pourrait permettre également à d'autres constructeurs de venir assembler ici. D'ailleurs, même pour le gouvernement, nous avons une commande déjà d'un assembleur qui viendra installer ses montres connectées ici. La technologie est maîtrisée. Si hier il y avait quelques soucis au niveau de quelques produits, aujourd'hui c'est fait sur place. Donc quelques anomalies ont été rattrapées et on a des produits puissants et bon marché.
Soulignons que les téléphones sortis aujourd'hui de l'usine Vemka sont les tout premiers d'un pays d'Afrique francophone. Un pari gagné pour Véron Mankou, ce jeune homme de 29 ans. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Tous les lundis soirs, La Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry.
Festival Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, assistée par John Ellison. Et avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Bon lundi à toutes et à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.